la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pauline Duchesne, je suis maîtresse de conférences en langue et littérature latine à l'Université Paris-Nanterre et j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui parce que l'Académie des inscriptions et belles-lettres m'a fait l'honneur de récompenser du prix Georges Perrault 2021 mon ouvrage « Comment écrire sur les empereurs, les procédés historiographiques de Tacite et Suétone » qui est paru en septembre 2020 aux éditions Ausonius. Mon domaine de recherche est l'historiographie antique, c'est-à-dire la façon dont les auteurs grecs et romains concevaient et rédigeaient des ouvrages d'histoire. Cette question est importante car souvent ces textes sont nos seules sources sur les événements historiques antiques, en particulier dans les domaines politiques et militaires. Or, depuis les années 1980, notre manière d'approcher et de comprendre ces œuvres a beaucoup changé, car on s'est rendu compte qu'elles étaient extrêmement influencées par la pratique rhétorique, et que leur but n'était pas tant de relater aussi fidèlement que possible des événements passés que d'illustrer le talent littéraire de leur auteur et servir des buts à la fois politiques et moraux. Dans cette perspective, on ne peut bien sûr pas raconter n'importe quoi, mais on est beaucoup moins attaché qu'aujourd'hui à ce qui relève de la vérité historique, lorsqu'il s'agit par exemple d'ajouter des détails pour animer son récit, d'en omettre d'autres pour rendre plus visible un certain aspect politique d'un règne, ou encore de présenter un empereur comme un exemple moral à suivre. Pour cette raison, lorsque vous lisez des historiens grecs ou romains, il faut garder en tête que ce que vous avez sous les yeux est déjà une interprétation des faits qui nous sont relatés. Le travail des chercheurs et chercheuses est aussi de déterminer ce qui est historiquement fiable de ce qui relève d'un procédé littéraire. Mon idée de départ, qui aboutit au livre primé par l'Académie, était de comparer deux auteurs romains, Tacite et Suétone, pour voir ce qui, dans leurs œuvres, leur était propre ou relevait d'une tradition narrative existante avant eux. C'était possible pour trois raisons. Tout d'abord, ils ont écrit à la même époque, c'est-à-dire au début du IIe siècle de notre ère, ce qui veut dire qu'ils partageaient a priori la même conception de l'écriture de l'histoire. Ensuite, ils appartenaient plus ou moins au même milieu et ont tous deux exercé des fonctions publiques, donc ils avaient potentiellement accès aux mêmes sources. Enfin, et surtout, ils ont choisi le même sujet, c'est-à-dire le règne des premiers empereurs, les fameux Julio-Claudiens, puis les Flaviens, pendant tout le premier siècle de notre ère. J'ai mené cette comparaison à tous les niveaux, qui correspondent à chaque chapitre de mon livre. Je me suis ainsi intéressée aux mots que mes auteurs ont employés pour se désigner eux-mêmes et pour désigner les sources qu'ils ont utilisées, aux motifs littéraires et historiques qui réapparaissaient ponctuellement entre leurs œuvres, au portrait global qu'ils dressaient de chaque empereur et à leur manière d'envisager l'écriture de l'histoire. Mon objectif n'était ainsi pas de déterminer ce qui était historiquement vrai ou faux dans ce qu'ils ont écrit, mais comment ils ont conçu et produit les récits qui sont arrivés jusqu'à nous. Vous vous en doutez, pour y parvenir, il me fallait bien sûr travailler sur les textes en langue originale, c'est-à-dire en latin ou en grec ancien, mais aussi bien connaître l'histoire de cette période et avoir des notions d'épigraphie pour utiliser des inscriptions, de paléographie pour comprendre comment mes textes avaient été édités à partir des manuscrits médiévaux, et d'archéologie. J'ai pu le faire parce que je suis agrégée de lettres classiques et j'ai bénéficié d'une formation de pointe dans ces domaines à l'École normale supérieure et à l'Université Paris-Nanterre où j'enseigne aujourd'hui. Comme les ouvrages et articles scientifiques ne sont pas traduits, la recherche en sciences de l'Antiquité suppose aussi d'être capable de lire au moins 5 langues européennes, français, anglais, allemand, espagnol et italien, ce qui est mon cas, même si j'avoue que l'allemand me donne encore parfois du fil à retordre. Mais tout cela vous semble probablement très technique, alors prenons un exemple dont vous avez très probablement entendu parler, l'incendie de Rome en 64 sous l'empereur Néron. Si on vous demande à quoi son nom vous fait immédiatement penser, c'est probablement cet événement qui vous viendra à l'esprit, en particulier si vous avez vu Quo Vadis, le film de 1951 réalisé par Mervyn LeRoy. Comme le récit qu'en ont fait Tacite et Suétone est dans les deux cas assez long, je vais me concentrer sur la partie particulièrement bien interprétée par Peter Ustinov, l'acteur qui incarne Néron, celle où l'empereur, inspiré par la beauté des flammes qui ravagent la ville, se met à chanter la destruction d'une autre cité, celle de Troie, par les Grecs. Tacite mentionne cette histoire dans la première partie de son récit, lorsqu'il évoque les mesures prises par Néron pour aider la population romaine à se mettre à l'abri de l'incendie. Il écrit alors, je vais citer en latin puis je traduirai tout de suite après, « Quae, ces mesures, quamquam popularia, bien qu'en faveur du peuple, in ineritum cadebant, était vaine, quia pervas erat rumor, car s'était répandue une rumeur selon laquelle, ipso tempore flagrantis urbis, au moment même où brûlait la ville, inisse eum domesticam scaenam, il s'était rendu sur sa scène personnelle, et cecinisse troianum excidium, et avait chanté la destruction de Troie, praesentia mala vetustis cladibus ad simulantem, en comparant les malheurs présents aux catastrophes d'autrefois. Nous retrouvons ici les caractéristiques que nous avons spontanément en tête en imaginant la scène. Néron déclamant des vers sur un des événements les plus célèbres de l'Antiquité gréco-romaine, sans se soucier le moins du monde, aussi bien de l'état de sa ville que de la situation désespérée où se trouve sa population, exactement comme dans Quo Vadis. Pourtant, Tacite ne dit pas que cet épisode a eu lieu, car tout ce qu'il rapporte à ce sujet relève en réalité d'une rumeur, rumor, qui s'était répandue à l'époque, perua serat. Ce qu'il présente comme historique n'est donc pas le comportement de Néron, mais ce qu'on racontait un peu partout sur ce comportement, ce qui est différent. Suétone, lui, a une toute autre manière d'évoquer l'incendie. Il écrit ainsi « Hoc incendium et turre maecenatiana prospectans, contemplant cet incendie du haut de la tour de Mécène, laetusque flammae ut aiebat pulchritudine et réjoui, comme il disait, par la beauté des flammes, halos in illi decantavit, il chanta d'un bout à l'autre la prise de Troie, in illo suo scaenico habitu, dans cet habit de scène qui était le sien. » Cette fois, il ne s'agit plus du tout d'une rumeur, mais d'un fait, puisque la phrase est affirmative. Decantavit, il chanta d'un bout à l'autre. Suétone va même plus loin et inclut dans son récit une citation de Néron présentée comme littérale, ut aiebat, comme il disait, ce qui donne encore plus l'impression que cette scène a bien eu lieu. Non seulement on nous donne des précisions sur l'endroit où elle s'est produite, en haut de la tour de Mécène, et sur la façon dont Néron était habillé, en vêtements de scène, mais en plus, on est capable de nous rapporter les propres paroles de l'empereur. Si nous n'avions pas aussi le texte de Tacite pour cette partie-là, nous n'aurions probablement aucun doute sur la réalité de ce que Suétone nous raconte. À cela s'ajoutent deux éléments persuasifs, particulièrement convaincants pour un lecteur romain. Le premier est qu'on sait, grâce à d'autres auteurs, que Néron a effectivement écrit un poème sur la chute de Troie. Donc cette histoire n'a pas été inventée ex nihilo. Le second est que chanter alors que Rome est en flammes correspond parfaitement au portrait d'ensemble de cet empereur. En effet, ce que nous qualifions aujourd'hui un peu rapidement de folie relève en réalité du stéréotype du tyran, cette figure littéraire créée à partir de personnes réelles et développée de manière à incarner quelqu'un qui ne respecterait aucune limite, aussi bien légale et sociale que morale ou même géographique. Le personnage de Néron, dans les sources antiques qui nous sont parvenues, reprend toutes ces caractéristiques, de sorte qu'il n'est pas du tout étonnant qu'on nous le décrive allant jusqu'à mettre le feu à Rome pour stimuler sa production poétique, alors qu'en réalité, il n'était même pas sur place pendant l'événement et n'a rien à voir avec lui. Comparer Tacite et Suétone permet ainsi de voir comment la version où il est responsable de l'incendie s'est mise en place. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple où cette fois-ci, c'est Tacite qui est pris, pour ainsi dire, la main dans le sac. Le 13 octobre 54, l'empereur Claude est empoisonné pendant un banquet par sa femme Agrippine. Voici la version de Suétone. Cette fois-ci, je commence par le biographe. Et vene non quidem occisum, et du moins sur le fait qu'il a été tué avec du poison, convenit, il y a accord. Ubi autem et perquem dato, mais sur l'endroit et par l'intermédiaire de qui on le lui a donné, discrepat, les avis diffèrent. Quidam tradunt, certains rapportent que, epulanti in arce cum sacerdotibus, ce fut lors d'un repas dans la citadelle avec des prêtres, per halotum spadonem praegustatorem, par l'intermédiaire d'Halotus, l'eunuque qui était son goûteur. Ali, mais selon d'autres, domestico conuiuio, ce fut lors d'un banquet chez lui, per ipsam Agrippinam, par l'intermédiaire d'Agrippine elle-même, quae boletum medicatum obtulerat, qui avait choisi un cep empoisonné, avidissimo ciborum talium, parce qu'il était extrêmement friand de ce type de plat. Etiam de subsequentibus, même pour la suite, diversa fama est, ce qu'on raconte diverge. Multi ayunt, beaucoup racontent que hausto veneno, après avoir absorbé le poison, statim ob mutuisse, il perdit aussitôt l'usage de la parole, excruciatumque doloribus nocte tota, et que, torturé la nuit entière par les douleurs, defecisse prope lucem, il décéda au point du jour. Non nulli, mais selon quelques-uns, inter initia consopitum, au début il devint somnolent, deinde, ensuite, quibo affluente, comme la nourriture refluait, et vomuisse omnia, il vomit tout, repetitumque toxico, et on lui fit reprendre du poison, incertum pultine addito, peut-être ajouté dans une bouillie de céréales, cum velut exhaustum, comme s'il était épuisé, refici quibo opporteret, et qu'il convenait de lui redonner des forces avec de la nourriture, animis operclustera, ou bien administré lors d'un lavement, ut quasi abundantia laboranti, en prétextant qu'il peinait parce qu'il avait trop mangé, etiam hoc genere egestionis subveniretur, et qu'on l'aiderait aussi par cette manière de se vider. On le voit, Suétone a des doutes sur deux parties de cet événement historique et nous présente ses diverses sources d'une manière qui est assez typique de la façon dont il procède habituellement. Donc il a des doutes sur les circonstances concrètes dans lesquelles l'empereur a été assassiné et sur les effets physiques que le poison a eus sur lui. À chaque fois, il nous présente deux versions dont certaines sont plus solides que les autres. L'une est ainsi introduite par le verbe tradere qui renvoie à une source écrite. Une autre est soutenue par un grand nombre de personnes, multi, ce qui n'est pas le cas d'une troisième, qui n'est reprise que par très peu de gens, non nulli, littéralement pas personne. En effet, si le constat de départ fait l'unanimité, l'empereur Claude est mort empoisonné, l'affaire se complique passablement dès qu'on entre dans les détails. À présent, voici la version de Tacite. Adeoque cuncta mox pernotuere. Et tous les détails furent bientôt connus partout. Ut temporum illorum scriptores prodiderint, au point que les auteurs de cette époque ont rapporté que infusum delectabili boleto venenum, le poison fut injecté dans un cep succulent, nequim medicaminis statim intellectam, et qu'on ne comprit pas tout de suite la force de la drogue, socordiane, à cause de la mollesse de Claude, an Claudi winolentia, ou de son ivrognerie. Simul, dans le même temps, soluta alus subvenisse videbatur, il semblait qu'un accès de diarrhée était venu à son secours. Igitur exterrita Agrippina, Agrippine fut donc épouvantée, et quando ultima timebantur, et puisqu'elle craignait la peine capitale, spreta praesentium inuidiam, méprisant la haine de l'assistance, xenophontis medici conscientiam adhibet, elle a recours à la complicité du médecin Xénophon, provisam iam sibi, dont elle s'était déjà assurée. Il est, celui-ci, tamquam nisus eumentis adiuaret, comme s'il l'aidait dans ses efforts pour vomir, faucibus eius demisisse creditur, introduisit à ce qu'on croit dans sa gorge, pinnam rapido veneno in litam, une plume recouverte d'un poison rapide, hautignarus, car il n'était pas sans savoir, summa scelera incipi cum periculo, qu'entreprendre un grand crime et se mettre en danger, peragi cum praemio, mais le mener à son terme sera récompensé. Alors, cette fois, plus de versions divergentes, plus d'hésitation. Au contraire, Tacite affirme non seulement que tout le monde connaissait les détails, cuncta per notuere, mais aussi qu'ils ont été rapportés par tous les auteurs de cette période en utilisant un mode particulier, le subjonctif parfait, c'est le verbe prodiderint, pour insister sur la réalité de cette conséquence. Pourtant, le texte de Suétone permet de voir qu'il a en réalité sélectionné les particularités des différentes versions qui l'intéressaient pour produire un récit unifié de l'événement sans que son lecteur puisse se douter que d'autres manières de le raconter étaient possibles. Pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il conçoit son rôle comme celui d'un narrateur et non comme quelqu'un qui, comme Suétone, présenterait le résultat de ses recherches. Or, donner toutes les versions suppose d'interrompre le récit et de lui donner une forme très fragmentée qui va à l'encontre d'un texte que le lecteur ou la lectrice pourrait lire avec autant de passion qu'un roman. C'est pourquoi Tacite a gommé toutes les aspérités qui se trouvaient dans ses sources pour proposer la version des événements qui, selon lui, était la plus vraisemblable et qui illustrait aussi son talent littéraire. On le voit bien avec la phrase finale « Sum mascherera incipi cum periculo per aci cum praemio ». Entreprendre un grand crime et se mettre en danger, mais le mener à son terme sera récompensé. C'est ce qu'on appelle une sententia, c'est-à-dire une phrase très courte qui restera dans la mémoire de son lecteur. C'est cela que j'avais en tête lorsque j'ai dit tout à l'heure que les textes des historiens antiques sont déjà des interprétations des événements qu'ils relatent. Suétone considère que Néron est responsable de l'incendie de Rome. Tacite pense que Claude a été empoisonné par sa femme avec la complicité de son médecin. Et tous les deux produisent des récits qui sont rhétoriquement pensés pour nous convaincre que ces versions sont les bonnes. Ce ne sont pas les seules manières de faire, il y en a d'autres, mais il serait trop long de les présenter toutes ici. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à mon livre et ou à mon blog de recherche, Memoriam Tradere, sur le site hypothèse.fr.